Cet après-midi, on est là pour parler de la grâce de Dieu, pour parler de l'Évangile. C'est pour ça que nous nous voyons le dimanche après-midi, pour parler de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et merci, ma sœur, pour ton témoignage. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est si grande, si profonde, qu'elle peut changer les vies. Et elle peut changer votre vie encore cet après-midi. S'il y a une grâce, s'il y a un salut, vous allez dire, s'il y a une grâce, c'est qu'il y a une conséquence quand même. C'est qu'il y a une condamnation, c'est qu'il y a un problème. S'il doit y avoir une grâce, s'il doit y avoir un salut, c'est qu'il y a une condition, un problème au départ. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler cet après-midi. De notre condition humaine, de la condition de notre âme, la condition de notre vie. Amen. Amen. Vous allez dire que je parle beaucoup de problèmes, hein. À force des semaines et des semaines, je parle beaucoup de problèmes. Mais pour voir la grâce de Dieu, pour voir la main de Dieu, ce que Dieu a fait dans les vies, ce que Dieu a fait dans notre vie, on a besoin de voir d'où on vient. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Dans Romains 5, versets 6 et jusqu'à 8. Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On voit dans ce verset que on peut mourir pour un homme de bien. On peut mourir pour un juste. Si on a un ami qu'on aime bien, un ami qu'on se dit, mais lui, il mérite quand même de vivre, il mérite d'avoir mieux, on est prêt à se sacrifier pour cet ami. Mais là, il ne nous est pas parlé de ça. Il nous est parlé que Jésus est venu alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions dans la condition de péché, condition de mort, alors que l'on n'aimait pas Dieu, alors qu'on était loin de lui. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, on l'a vu dans les chants, qui est venu et cette grâce a surpassé tout ce qu'on pouvait imaginer. La grâce de Dieu pour nos vies s'est manifestée alors que nous étions pécheurs, alors que nous ne voulions pas de lui. Voilà notre condition, voilà notre vie. Un peu dans la même lignée que ce matin, le Seigneur m'a donné une pensée pour cet après-midi. Je crois que le Seigneur veut nous parler. Et on va aller dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, donc le dernier livre de la Bible, pour ceux qui l'ont. Apocalypse 2. À partir du verset 1er, c'est une lettre à une église, à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand on voit ce texte, quand on lit ce texte, s'il n'y a pas le verset 4, vous imaginez, on est en train de lire ce texte, il n'y a pas ce verset 4, on est en train de parler de quelqu'un, et on dit, mais j'ai vu tes œuvres, comme elles sont bonnes, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu que tu aimes la justice, j'ai vu que tu n'aimes pas le méchant. Ça élève, hein? On aimerait qu'on parle comme ça de nous, hein? Non, t'es pas d'accord? Ouais. Si on parle comme ça de moi, moi je serais content, hein? J'ai vu tes œuvres. J'ai vu combien tu es fort, combien tu es bon, combien tu fais bien ton travail. On pourrait se dire, mais... On pourrait s'arrêter là et se dire, mais c'est bien. Je suis un bon chrétien. C'est bien, je vis une vie correcte. Vous avez vu les compliments qu'on me fait? Autour de moi, on me dit, mais... Tu es quelqu'un qui aide. Tu as la réputation d'avoir quelqu'un qui fait le bien autour de lui. Une personne bien, une personne tranquille. qui ne fait pas de remous, qui ne fait pas de conflit. Et là arrive ce verset 4. Ce verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce verset arrive et nous tombe dessus. Ce verset, il arrive et il fait comme, c'est comme si ça annulait toutes les compliments. Comme si ça annulait le fait que tu aies fait de bonnes œuvres, le fait que tu aies fait de belles choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut être, vous savez, un bon chrétien. On peut être une personne qui pense avoir la foi. Vous savez, je connais des personnes qui viennent me voir sur le marché avec Henri aussi. Ils viennent nous voir et ils nous disent, mais vous savez, moi je fais le bien autour de moi. Quand des gens viennent me voir, eh bien, je leur fais du bien. Je donne de l'argent. Je bénis les personnes qui viennent. Et même j'ai reçu comme un don. Comme un don, et quand les personnes viennent, je leur proclame, je fais comme une prophétie sur leur vie. Et je leur donne du bien, je les bénis. Waouh! Une personne m'a dit, j'ai 3 livres d'or entiers de remerciements pour ce que j'ai fait. 3 livres d'or entiers. Vous imaginez? 3 livres d'or entiers de personnes qui sont venues et qui ont dit, vous êtes une personne bien. Vous faites les choses bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes comme un messager de Dieu. Et là, Dieu vient. Dieu vient et il dit, mais tu fais de belles œuvres. Tu fais des choses que tu crois venir de moi. Mais je ne suis pas avec toi. Mais tu as abandonné l'amour de Dieu dans ta vie. Tu as abandonné l'amour que tu avais pour Dieu. Certains diront, j'ai fait ma communion étant enfant. Certains l'ont fait ici, je sais bien, avant de rencontrer le Seigneur. Hein. Certains diront, mais je me suis marié à l'église. J'ai amené mes enfants au catéchisme. Je viens pour les enterrements, je viens pour les mariages, je viens pour Noël dans l'église. Je fais toutes ces choses bien. Tu te dis que tu as une vie droite et que peut-être là-haut, eh ben, Dieu, il te laissera une petite place. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser à ça, mais comme si on arrivait et qu'on passait incognito. On passe un peu entre les mailles du filet. Et je me dis, je suis bien, alors Dieu ne sera pas trop méchant, mais moi, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Je vais peut-être vous décevoir cet après-midi. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Je vais peut-être vous décevoir, mais arriver là-haut, ça ne sera peut-être pas comme vous le pensez. Vous ne pourrez pas sortir la liste en disant, regarde tout l'argent que j'ai donné à l'église. Regarde tout l'argent que j'ai donné aux pauvres. Regarde toutes les fois où j'ai acheté à manger à ceux qui étaient dans la rue. On peut faire des très bonnes œuvres, même des œuvres chrétiennes, sans connaître Jésus, sans connaître le Sauveur. Dans notre monde, il y a des lois. Vous êtes d'accord avec moi, là? Amen, hein? Oui, oui. Si vous pensez qu'il n'y a pas de loi, on va discuter un peu après, parce que il faut faire attention quand même à ce qu'on fait. Il y a des lois dans le monde, et en France, il y a des lois. Il y a des bonnes et des mauvaises, hein? Attention, il y a de tout. Mais il y a des lois. Et tout le monde ici pourrait dire, il y a des lois, c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait des lois dans un pays. S'il n'y avait pas de loi, ben, ça serait l'anarchie. Chacun ferait ce qu'il voudrait. Chacun irait aller piquer la voiture du voisin et on lui dirait rien. Chacun, il dirait, ben, tiens, je sais pas, moi j'aime bien cette maison, ben, je vais l'habiter, tout va bien, je vais aller creuser dans le jardin. Vous voyez, on a besoin de lois et tout le monde est d'accord avec ça. Mais quand on commence à parler qu'il y a une loi spirituelle, une loi dans le ciel, une loi pour nos âmes, de suite on se dit, mais non. Dieu est miséricordieux. Jamais, jamais il pourrait punir les gens. Jamais il pourrait chasser quelqu'un. Et c'est vrai que Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Mais comme on le dit souvent, On n'ira pas tous au paradis, hein. Même si on l'a peut-être tous chanté une fois. On n'ira pas tous au paradis. On n'ira pas tous au paradis parce qu'il y a une loi qui a été établie. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur. Et il ne peut pas accepter en sa présence quelque chose qui n'est pas pur, quelque chose qui n'est pas saint. Et on a cherché dans le monde entier, on a cherché dans les hommes, on a cherché partout, on a cherché quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui était saint, quelqu'un qui n'avait jamais péché. Et vous savez quoi? J'ai cherché, cherché, mais on ne l'a jamais trouvé. On n'a jamais trouvé quelqu'un qui est juste. Un homme qui est juste, qui est pur, qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais péché. Alors, la condamnation tombe. Si on ne trouve pas un homme juste, si on ne trouve pas une personne qui n'a jamais péché, alors personne ne peut être accepté dans la présence de Dieu. Alors personne ne peut aller au paradis. Personne. La condamnation pour nos vies. Dieu est parfait. Il ne peut pas accepter les choses injustes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a besoin de réaliser dans nos vies, notre condition pour réaliser la grâce de Dieu. Mais on a besoin de réaliser dans nos vies notre état. Arrête avec tes faux semblants, arrête avec ta manière de voir à dire mais je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas ça qui te donne le salut. Ce n'est pas ça qui te rapprochera de Jésus. Seulement son amour. Seulement sa paix. Et peut-être ce que tu as perdu, ce que tu as oublié, ce que tu as abandonné, c'est ton premier amour. Réalise ta condition. Tu as une dette à payer. Les hommes ont essayé de la payer. Vous savez, une fois, j'étais à un endroit où il y avait une église, il y avait un endroit, et là, des milliers de personnes étaient là. Parce qu'ils allaient sortir une statue. Parce qu'il y avait la statue de Marie qui allait sortir. Ils se sont dit, mais si je suis là et que je peux la toucher, peut-être je serai pardonné. D'autres, au même endroit, se mettaient à genoux et faisaient des kilomètres sur les genoux. Certains se sont meurtris dans leur corps. Vous savez que certains sont même allés jusqu'à se crucifier. Pour avoir le pardon, jusqu'à se crucifier, en pensant que peut-être que s'ils se battaient eux-mêmes, s'ils se faisaient du mal à leur corps, ils pourraient hériter du paradis. D'autres ont cru que l'intermédiaire était autre. Alors ils sont allés voir un homme qui fait l'intermédiaire avec Dieu. Ils se sont dit, mais je vais aller lui dire ce que j'ai fait, et cet homme va me pardonner. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Les statues, les idoles, les rites, la religion, cela ne sert à rien. Peut-être tu es déçu. Tu as mis ton espoir dans cette religion, ton espoir dans cette manière de faire. Tu pensais être bien. La Bible nous dit que même si je distribuais tous mes biens aux pauvres, même si j'allais jusqu'à me sacrifier, cela n'est rien si je n'ai pas l'amour. Et cet amour, c'est l'amour de Jésus pour ta vie. C'est l'amour que tu peux avoir pour Jésus. Cette relation, cet amour ensemble. Tu peux trouver l'amour divin cet après-midi. On a dit dans Romains 5 que à peine mourrait-on pour un juste quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jésus est mort pour toi. Il est allé à la croix. Il a souffert pour que tu puisses rencontrer son amour, pour que tu puisses le rencontrer. Et la seule clé, le seul moyen d'aller au paradis, le seul moyen de rencontrer Jésus, c'est par amour. Ce n'est pas par toutes sortes de rites. Vous allez dire, je prêche la mort cet après-midi. Je prêche la mort, c'est dur, hein, je vois là, c'est un coup de massue là. Je prêche la mort, oui. Je prêche la mort qui donne la vie. La mort d'un sauveur pour vous. Je voulais qu'on regarde pendant quelques minutes encore la vie d'un homme. Cet homme s'appelle Samson, on le voit dans le juge, dans le livre des juges. Juges chapitre 13. Juges chapitre 13, verset 1er. Il y a un contexte un peu particulier, on y est il y a quelques milliers d'années, et il y avait pas mal de guerres sur la terre. Et au temps des juges, si vous voulez, il y avait comme si tout le monde faisait ce qu'il voulait, en quelque sorte. Et le peuple d'Israël, le peuple qui aimait Dieu, a commencé à s'éloigner de Dieu. Et là, les Philistins sont venus et ils ont pris le pays, ils les ont asservis, ils voulaient les détruire. Et Dieu va permettre à un couple qui est stérile, d'avoir un enfant. Vous savez que Dieu guérit. Vous savez que Dieu peut transformer les vies. Vous savez que Dieu peut enlever toute maladie, tout problème. Même si les docteurs disent non, c'est pas possible. Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire dans cette famille. Un enfant va naître. On va lire ensemble dans Juges 13, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. » Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Waouh! Waouh! La puissance de Dieu. Dieu, il permet que cette famille ait un enfant. Et en plus de ça, il donne une promesse sur cet enfant. Cet enfant délivrera Israël de la main des Philistins, de l'ennemi. Et on voit dans ce contexte que le peuple de Dieu avait abandonné ses voies, mais ce couple, on le voit un peu plus loin, va désirer savoir comment élever cet enfant, comment le faire grandir, quoi faire. Ils avaient soif de consacrer cet enfant, ils avaient soif d'être agréable à Dieu pour qu'il agisse dans leur vie, pour qu'il agisse dans la vie de cet enfant. Samson va naître. Et on comprend bien sûr le désir de ses parents de faire les choses bien, ils vont l'élever dans les voies de Dieu. Samson va grandir dans les voies de Dieu, mais il va commencer à un certain âge à faire ses propres choix. À un moment donné, il va s'éloigner du plan que Dieu avait prévu pour sa vie. Il va négliger tout ce qui vient de Dieu, les promesses, ce que ses parents avaient fait. Il va faire beaucoup de mauvais choix. Ses propres désirs et ses plaisirs charnels vont passer avant. On voit cet homme qui naît dans une famille chrétienne. On l'a entendu tout à l'heure. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Parfois, on pourrait croire que parce qu'on est né dans une famille qui croit en Dieu, on a le salut. Parce qu'on est né dans une famille où on est allé à l'église, où on a entendu parler de Dieu, on a le salut. Non. Le salut, c'est personnel. Et Samson va être là et il va grandir, il va avoir bien sûr cette promesse sur sa vie. Dieu va permettre qu'il ait une force particulière, une force qui dépassait la nôtre, même s'il y en a qui sont costauds cet après-midi. J'en vois des balèzes. Eh bien, Samson, il était vraiment très fort. Le Seigneur lui avait permis de pouvoir délivrer Israël dans les batailles. Il va grandir. Et petit à petit, il va faire ses choix. Petit à petit, il va se dire, mais il y a des femmes que j'aime bien. Il y a des femmes que je trouve belles. Et c'est pas que c'est mauvais d'avoir une femme. Hein. Attention, hein. Je suis marié, je suis heureux. Hein. Attention. Hein. Mais cet homme a quand même un problème. C'est qu'il va avoir une femme et ça va pas bien se passer. Et puis finalement, il va en avoir une autre. Il va aller voir une prostituée. Et puis il va tomber encore auprès d'une femme qu'il aimait, et cette femme ne l'aimait pas. Il va se faire manipuler. Lui, l'homme fort, l'homme puissant, celui que tout le monde craint, va se faire manipuler. Et il va être comme aveuglé. Il ne réalise pas qu'il est en train de jouer sa vie. J'aimerais vous parler de quelque chose. Le péché dans la vie. peut-être certains plaisirs charnels. Vous savez, il y a un ennemi pour nos âmes. Et cet ennemi fera tout pour nous manipuler. Il fera tout pour qu'on sorte du plan que Dieu avait prévu pour votre vie. Dieu n'avait pas prévu le malheur. Dieu n'avait pas prévu que vous quitterez ses voies. Il n'avait pas prévu que vous irez faire des choix fous. Il avait prévu des plans de bonheur pour vous, des plans de paix, une espérance. Il avait prévu cela. Il avait prévu que vous soyez heureux et que même si parfois la vie n'est pas facile, que vous puissiez avancer, aller plus loin. Et petit à petit, Samson va aller jusqu'à la mort. Il va aller jusqu'à se faire manipuler. Le plus triste dans l'histoire, c'est que Samson va se laisser avoir, mais il ne va pas le réaliser. On va le lire un peu plus loin dans Juges 16. Juges chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila, pas Dalila, hein, Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Delila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Et lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Déjà, il aurait pu se poser un peu des questions. Mais ça continue. Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis il lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser 7 restes de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. » Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 restes de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. On voit cet homme fort rentrer petit à petit dans cette manipulation, rentrer petit à petit dans sa mort, dans son malheur. Le péché était là. cette femme était là en train de le manipuler. Et lui ne va pas prendre garde. Et il va vraiment s'écarter de la voie de Dieu, au point de négliger ce qui vient de Dieu, négliger le fait qu'il ait été consacré. Il ne l'avait dit à personne. Bien sûr, comme disait notre frère l'autre jour, la force n'est pas dans les cheveux. Hein. Ce n'est pas parce qu'il avait des cheveux longs. Hein. N'essayez pas de vous faire pousser les cheveux longs. Pour être plus fort, ça ne marchera pas. Mais c'était le fait qu'il avait été consacré à Dieu. Et qu'il y avait comme une alliance entre lui et Dieu. Et à ce moment-là où elle lui rase la tête, en fait, il est en train de rompre l'alliance. Rompre cet accord, rompre cette union avec Dieu. Lui, l'homme fort, va se laisser manipuler par ses sentiments. Combien de fois dans nos vies on peut se laisser manipuler par toutes sortes de choses, toutes sortes de plaisirs, toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses qui nous disent « Mais t'inquiète pas, va là-bas, fais ça. Viens avec moi un peu. » On sait que c'est mauvais, mais viens avec moi, c'est pas grave, t'inquiète. On nous fera rien, on nous dira rien. Et petit à petit, on s'enfonce. On s'enfonce. Et au bout d'un moment, c'est la mort. Samson se retrouve, lui, le combattant, se retrouve à tourner une meule, comme un animal. À tourner une meule. Esclave. Et le plus triste de l'histoire, c'est qu'au verset 20, elle dit « Alors les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. J'aimerais m'adresser à une personne cet après-midi. Tu as cette image qui revient régulièrement. Cette image de ta mère qui lit la Bible. Cette image de ta mère qui a une certaine foi, de quelqu'un dans ta famille que tu considères comme ta mère spirituelle peut-être. Et tu as cette image qui revient et qui revient régulièrement. C'est un moment que tu affectionnes, c'est un moment que tu aimes parce que tu as entendu parler de Dieu. Tu as même cru à une certaine époque. Tu as même cru en Dieu. Tu as même prié. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, tu as fini par prendre un autre chemin. Et tu t'es enfoncé dans des choses qui t'ont amené au malheur. Tu t'es enfoncé dans des choses qui t'ont amené à la tristesse. Des activités peut-être, certains plaisirs éphémères, peut-être certaines personnes. Le Seigneur te parle particulièrement cet après-midi. Tu t'es mis quand même des limites dans ta vie. Tu t'es dit, pour avoir une bonne conscience, il y a certaines choses que je ne ferai pas. J'ai été quand même éduqué dans la foi. J'ai été quand même éduqué dans les choses qu'il ne fallait pas faire. Et tu as mis sur ta conscience comme des limites. En pensant que si je ne les dépasse pas, peut-être j'aurai ma place au ciel. Peut-être Dieu aura compassion si je ne dépasse pas ces limites. Peut-être que tu es comme Samson. Tu te dis, mais je m'en sortirai comme les autres fois. Tout va bien, c'est pas grave. Comme les autres fois, je m'en sortirai. Tu ne réalises pas que Dieu s'est retiré de toi, ou plutôt que tu t'es retiré de la présence de Dieu. Tu ne réalises pas que peut-être tu avais une certaine foi, mais que tu t'es éloigné de lui. Et que maintenant, il y a cette séparation entre toi et Dieu. Cet amour d'enfant pour Dieu a disparu. Ton péché te condamne. Il nous condamne tous pour l'éternité. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À la fin de ce verset, à la fin de ce passage, on va y retourner, on finira avec ça si vous voulez bien. À la fin de ce passage, dans Apocalypse 2, qu'on a lu tout à l'heure, verset 4, il est dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. » Il y a une parole pour quelqu'un cet après-midi. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Le chandelier, c'est ce qui apporte la lumière. Et peut-être il y a encore cette lumière dans ta vie. Et tu comptes sur ça, tu dis, mais il y a encore comme une sorte de lumière. Je sais que je viens de temps en temps à l'église, ça m'arrive de prier même. Il y a comme une lumière qui est encore là. Mais si tu ne retournes pas à l'amour de Jésus pour ta vie, cette lumière sera ôtée. Parce que pour l'instant, on est dans des temps de grâce. Mais la Bible nous dit qu'un jour vient où le retour de Jésus vient, qui viendra enlever son Église, qui viendra enlever ceux qui croient. À ce moment-là, la lumière partira. Jésus qui est la lumière, on l'a entendu tout à l'heure, qui est celui qui réchauffe ton cœur, celui qui éclaire ton chemin, partira. Mais est-ce que tu partiras avec lui? Est-ce que tu partiras avec lui? Cette lumière, tu sais qu'elle est là. Mais elle peut être retirée. Elle peut être retirée. Ne te dis pas, je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sortirai, c'est bon. Oui, nous vivons la grâce encore. Nous vivons des moments bénis. Merci Seigneur pour ça. Mais un jour, il sera trop tard. Que tardes-tu cet après-midi? Le Seigneur t'a donné la clé. Il te demande de te repentir. Il a des projets de paix, non de malheur. Si tu persistes à ne pas vouloir de lui, il ne pourra pas rester avec toi. Si tu persistes à ne pas vouloir qu'il rentre dans ta vie, il ne pourra pas rester à la porte à frapper. Pour l'instant, il frappe à ta porte. Il frappe, il dit, mais je veux rentrer complètement dans ta vie. Je veux te donner le bonheur, la joie. Je veux te donner la vraie vie. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Nous étions condamnés. Et il a payé la dette parce qu'il t'aime. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre que Jésus. Parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes pour que nous sommes sauvés. Arrête les œuvres. Arrête ta manière de voir. Le Seigneur te montrera quoi faire. Mais pour l'instant, vis ta relation avec Dieu. Rencontre Jésus. Fais cette rencontre cet après-midi. C'est pour toi la grâce, le salut, si seulement tu viens à lui. Pour conclure, toujours dans le même passage au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On va fermer nos yeux. On va rentrer dans le recueillement pendant que le groupe de louanges peut monter. Celui qui vaincra pourra manger de l'arbre de la vie. Tu as l'occasion cet après-midi de vaincre ce qui t'empêche d'approcher de Dieu. De vaincre ce qui te tient dans le malheur. Tu as l'occasion parce que par tes propres forces, tu n'y arrives pas. Mais Jésus peut le faire. Jésus est plus fort. Il peut te délivrer. Il peut t'aider. Il peut t'amener à rencontrer la délivrance, l'amour en lui. À celui qui vaincra. Mais pour ça, il faut que tu viennes à lui, que tu te repentes. Il a payé ta dette, il t'aime, mais il attend ton amour en retour. Alors, juste un geste, juste un moment. Tu veux accepter Jésus dans ton cœur. Pour avoir cette occasion, juste, je vais vous demander un geste, de lever votre main vers le ciel. Tout le monde garde les yeux fermés, on n'a pas besoin de regarder. lever la main vers le ciel et pas pour me le montrer à moi, mais pour dire, Jésus, oui, je veux retrouver ce premier amour. Oui, je veux retrouver la paix. Je veux retrouver la joie. Je veux retrouver cette simplicité. Plusieurs mains se lèvent et on lève la main vers le ciel, vraiment comme une consécration cet après-midi. Seigneur mon Dieu, tu vois les mains qui se lèvent. Tu vois que chaque main, c'est une prière amenée vers toi. Je te prie, Seigneur, de bénir mon frère, ma sœur, qui est là, qui désire donner sa vie, d'abandonner toute leur vie. Je sais que tu vas les bénir. Aujourd'hui, tu ouvres la porte, Seigneur. Aujourd'hui, tu ouvres la porte, mais fais en sorte qu'ils ne la referment plus, qu'ils ne retournent plus au péché, qu'ils ne retournent plus au malheur, Seigneur. Bénis-les, 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 Jésus. Si tu as levé ta main, c'est un engagement que tu prends aujourd'hui. Un engagement entre toi et Dieu. Un engagement entre toi et Jésus. De le suivre, de l'accepter, d'aller plus loin, de le rencontrer, de vivre son amour. Gloire à Dieu, merci.